Ici la Voix de la Russie, je suis avec vous, Oksana Bobrovitch. On va parler aujourd'hui des portiques autorisés en Bretagne. Samedi dernier, pendant que la manifestation pour l'emploi se déroulait à Quimper, des anti-écotaxes ont mis le feu aux portiques de Saint-Aloestre sur les quatre voies entre Lorient et Rennes. Les pneus incendiés au pied du portique ont provoqué l'effondrement de la structure. Mais qu'est-ce que c'est cet écotaxe qui provoque tant de réactions auprès de Bretons? Qu'est-ce qu'il représente de si injuste pour pousser à l'affrontement ouvert? Nous avons recueilli le commentaire du président de l'Association des entreprises bretonnes produites en Bretagne, Jacques, ou comme on dit en Bretagne, Jacques Bernard.
Qu'est-ce que c'est cet écotaxe qui nuit tellement aux Bretons?
Alors, pour être très très clair et faire simple pour les auditeurs, l'écotaxe, ça n'est pas simplement une nuisance pour les Bretons. C'est fondamentalement anti-républicain puisque c'est une taxe basée sur le fait que vous habitiez plus ou moins loin des centres de consommation. Ça veut dire qu'en fait, plus vous habitez loin, plus votre entreprise est loin, plus vous allez payer cher. C'est totalement et anti-républicain, c'est l'anti-égalité. Et puis évidemment, par la même occasion, ça met à mal tout le travail qui a été lancé dès les années 1960 par le président Charles de Gaulle à l'époque, le président de la République, qui avait mis en place la DATAR sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire basé sur un aménagement du territoire français où on est basé sur l'égalité républicaine. Alors forcément, plus vous êtes loin, plus vous payez une taxe, c'est totalement l'antithèse d'un aménagement du territoire. On ne peut pas, évidemment, être dans un pays où il y a de telles inégalités, qui plus est, qui vient en plus s'ajouter à des difficultés économiques du moment.
On a parlé, il y a une légende comme quoi c'est Anne de Bretagne qui a négocié même la gratuité des autoroutes. Bon, sans prendre en compte que les autoroutes, ce n'était pas Anne de Bretagne qui l'a construite.
Non.
Mais c'est une grande tradition et c'est bien peut-être pour ça que les Bretons étaient en première ligne de l'opposition à l'instauration de l'écotaxe.
Alors, je pense que quelque part dans l'inconscient des Bretons, ou dans le conscient de certains Bretons, il est possible qu'on ait fait référence effectivement à Anne de Bretagne, puisque la Bretagne est rattachée à la France depuis 1532, ça fera bientôt 500 ans, et qu'effectivement dans ce traité, il était stipulé que les routes de Bretagne resteraient libres d'accès et ne seraient soumises à aucun péage, ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, on peut considérer que d'une certaine manière, cette écotaxe était une forme de péage. C'est peut-être pour ça que les Bretons ont pris conscience plus vite que d'autres, mais fondamentalement, je le répète, c'est une taxe injuste parce qu'elle taxe le fait que vous habitiez loin des centres de consommation ou vous produisiez loin des centres de consommation.
En fait, il ne s'agissait pas de créer une sorte de portique sur les autoroutes pour relever les taxes à l'ancienne, mais il s'agissait de ces taxes appliquées sur la totalité du territoire. Et pratiquement maintenant que l'opposition et le bat son plein, quel est à votre avis, quels sont les pronostics, comment le gouvernement va suivre sa démarche? Est-ce qu'il va le retirer ou il va s'obstiner?
Alors moi, comme je ne lis pas dans les boules de cristal et que je ne suis pas magicien, je ne sais pas ce que pense le gouvernement et encore moins Jean-Marc Ayrault. La seule chose que je peux dire, c'est que je pense que c'est une ineptie de mettre cette taxe en place définitivement, voilà, tout simplement, parce que ça ne correspond pas à une réalité. Je crois qu'il vaut mieux prendre le problème, puisqu'on nous dit que cette taxe est créée dans le cadre du Grenelle de l'environnement, que c'est une taxe entre guillemets écologique. Ok, je l'entends, je comprends, mais où il est le problème, en fait, de l'alternative au transport routier? Ben, ça n'a pas été réglé en France. Donc, pour moi, fondamentalement, il s'agit maintenant de mettre vraiment et véritablement en place le ferroutage, c'est-à-dire l'utilisation à la fois des transports routiers et des transports ferroviaires pour éviter que les camions n'encombrent les routes, puisque c'était fait pour ça à la base. Eh bien, prenons le problème dans le bon sens. Afin d'éviter de mettre une taxe, proposons de la mise en place urgente, d'un plan ferroutage digne de ce nom en France.
Il y a aussi le canal de Nantes à Brest, on peut faire un pas en arrière.
Alors, je vais prendre juste un parallèle. L'Allemagne doit avoir quelque chose comme 300 km de côte, elle a 6000 caboteurs. La Bretagne a 2000 km de côte, elle a 2 caboteurs. Voilà, je vous le donne en réflexion. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. On peut passer par les côtes. On a beaucoup de systèmes. Mais encore faudrait-il qu'il y ait une véritable volonté. Et ça n'est pas, et là je vais être très clair, ça n'est pas le gouvernement Hérault le responsable, ce sont tous les gouvernants qui ont dirigé la France depuis plus de 30 ans, parce qu'aucun plan sérieux n'a été mis en place.
Il y a l'écotaxe donc, qui taxe le transport routier, mais il y a eu d'autres projets qui n'étaient pas encore menés jusqu'au bout, tels que les énergies renouvelables, donc les systèmes, enfin le système n'est qu'à son début. Le gaz de schiste, on a pris une bonne décision pour ne pas l'extraire parce que cette méthode de coût hydraulique, bon, c'est une bonne chose, mais vous ne pensez pas qu'il faut prendre toutes les mesures écologiques ou vertes dans l'ensemble et pas juste prendre par les petits bouts pour les aligner dans une sorte de puzzle.
Ah, moi, je fais partie avec mes collègues d'un projet en Bretagne. Nous militons pour une diversification absolue de la fourniture énergétique. L'éolien marin en Bretagne, c'est une réalité. Elle va être mise en place. Ça, c'est une réponse. Parce qu'on a une énergie naturelle qui est la mer, une énergie motrice qui est la marée. Donc l'éolien maritime est une vraie réponse. Les agriculteurs, puisqu'on les accuse toujours de polluer, ce qui n'est pour moi pas vrai, parce que ça n'est pas la vérité, mais ils ont les alternatives avec la méthanisation, à condition qu'on autorise la capacité à méthaniser à la ferme, comme ce qui se fait en Allemagne. En Allemagne, il y a plus de 6 000 à 7 000 méthaniseurs qui fonctionnent aujourd'hui à la ferme. Chez nous, il y en a, allez, à tout casser, une vingtaine. Donc il y a une marge de progrès considérable. Et on encourage à ça. On encourage à la diversification de la fourniture énergétique.
Est-ce qu'on peut dire deux mots de ce groupement qui a dit non à l'écotaxe, qui s'est réuni sous le label « Nous aimons la Bretagne ». Donc je suppose que Produit en Bretagne, qui fête les 20 ans cette année, en est l'initiateur. Mais qui sont ces gens qui se regroupent sous « on » ?
Sous « on », nous aimons la Bretagne, sous « on », simplement des responsables économiques de tout secteur d'activité. C'est-à-dire à la fois, et c'est ce qui surprend toujours, à la fois des industriels, des agriculteurs, des transporteurs, des transformateurs, donc des métiers de service, des distributeurs, parce qu'on est bien tous ensemble embarqués dans cette, j'aime pas le mot combat, dans cette simplement cette démarche lucide qui consiste à dire qu'une région peut vivre qu'à partir du moment où on est tous en phase et on est en phase pour la développer économiquement, mais dans un développement économique intelligent et mesuré, pas dans n'importe quel sens et pas n'importe comment. C'est bien nous en tant que responsables de la vie sur nos territoires, responsables du développement économique, qui avons décidé de dire non, cette écotaxe, ça n'est pas censé, ça va pénaliser toutes les entreprises qui ont décidé de rester ici sur cette pointe Bretagne, qui sommes attachés à cette région fabuleuse qu'est la Bretagne. Alors simplement, donnez-nous, ou laissez-nous plutôt, parce que je préfère laissez-nous les moyens de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire du développement économique intelligent avec tous les acteurs économiques.
Dernière question, vous ne pensez pas que la décentralisation ou tout le projet de décentralisation qui est en train d'être travaillé à l'Assemblée nationale peut être une solution justement à ces revirements, enfin à ces revers, je veux dire,
de centralisation ? Moi, je suis un militant pur et dur de la décentralisation depuis toujours. Je pense que seule une France, considérant que ces régions sont fortes, sera une France forte à l'arrivée. Une France jacobine ou ultra-jacobine comme elle l'est aujourd'hui est totalement, totalement obsolète. C'est fini, ce modèle, il est obsolète. On le voit partout. Et la réalité, c'est bien une régionalisation forte, des régions qui ont les moyens de leur développement, qui plus est, avec des élus de territoire en proximité avec les acteurs économiques du territoire.
Tous ces événements autour des écotaxes trahissent un malaise profond de la société, quelque peu enfoui jusqu'à ces derniers jours. L'Assemblée nationale travaille depuis plusieurs mois sur le projet de la loi de la décentralisation, mais le peuple et les élus locaux n'attendent pas, ne veulent plus attendre. Ils ont démarré les actions sur le terrain, les actions qu'on ne peut pas toujours qualifier de pacifiques. Une manifestation massive des bonnets rouges à Quimper ce week-end a montré la détermination des Bretons. Nous avons posé la question de répartition des pouvoirs de décision entre le gouvernement et les forces de rue à Paul Molac, député de l'Assemblée nationale.
C'est un des mots d'ordre de la manifestation parce que c'est vivre, travailler et décider au pays. Donc il y a bien l'histoire de décider au pays. En Bretagne, on a une conscience très importante de cet aménagement du territoire et d'une Bretagne qui ne marche pas à deux vitesses, c'est-à-dire une Bretagne de l'Est qui se porte plutôt bien et une Bretagne de l'Ouest qui sera à la traîne. Donc là-dedans, ce qu'on attendait, nous, c'était des pouvoirs pour la région, et en particulier les pouvoirs qui sont des pouvoirs réglementaires à la région. Parce qu'on voit bien que notre système centralisé est un peu, j'allais dire, bloqué, dans la mesure où chaque fois qu'il y a un problème de ce type-là, ça remonte au gouvernement, et c'est au gouvernement de gérer tout ce qui se passe finalement dans les régions. Parce qu'il n'y a pas d'échelon intermédiaire comme dans les autres pays d'Europe. Or, nous sommes dans une démocratie où les médias ont beaucoup d'importance. Et à partir du moment où les médias ont beaucoup d'importance, ils sont concentrés à Paris, ils ont une lecture parfois partielle des choses, et on voit bien que en ce moment, c'est un ensemble de choses qui font que ça donne à la fois de la crédibilité aux gens de terrain, puisqu'ils sont relayés par les médias nationaux, et en même temps, ça provoque un embouteillage au niveau du gouvernement. Donc là, on voit bien que le problème de la décentralisation à la française est encore à inventer. Nous, en tout cas, une partie des députés, nous militons pour ça, c'est-à-dire que la France s'engage dans une réforme qui serait de type fédéral.
Donc en fait, cette loi de décentralisation a un peu de retard. Les gens ne veulent plus attendre.
Non, exactement, parce que nous avons un certain nombre de mesures pour les agriculteurs, par exemple, et le Premier ministre, ça a été annoncé dès le mois de mars, et pour l'instant, on ne voit rien venir et on leur dit, ben voilà, ça va être fait au mois de janvier. Donc ils disent, comment ça se fait? Tout le monde est d'accord? Et ça met pratiquement un an pour pouvoir déboucher. Donc là, on voit bien que le système est un peu bloqué. Et comme on a, au niveau de la décentralisation, comme on a découpé le projet en trois parties et qu'on a commencé par les métropoles, on n'a pas clarifié les choses. Les gens ne savent pas ce qu'il y aura dans le deuxième projet sur les régions et dans le troisième projet sur l'autonomie locale. Donc, si vous voulez, sans perspective, sans rien, c'est un des aspects de cette crise. C'est pas le seul, hein. Faudrait pas le limiter à ça, mais c'est un des aspects. Et puis, il y a évidemment la première chose, hein, c'est évidemment les plans sociaux, les entreprises qui ferment, et sur un territoire relativement restreint en Bretagne, c'est-à-dire essentiellement quand même dans le Finistère, et forcément, ça provoque une peur. Tous ces gens-là, si vous voulez, ils sont dans la détresse. Et donc, eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on trouve des solutions pour eux.
On dit que le problème économique n'est pas seulement le problème de la Bretagne, mais d'autres régions. Mais d'autres régions se taisent pour l'instant. À votre avis, pour quelles raisons?
Je pense que les Bretons ont cette faculté de pouvoir s'unir à un moment donné, au-delà de leurs différences, parce que dans la manifestation de Quimper, je vais vous dire, les gens qui étaient là, ils allaient de la droite à l'extrême gauche. Et ils demandaient, et ils avaient les mots d'ordre que je vous ai donnés, c'est-à-dire vivre, travailler et décider au pays. C'est vraiment quelque chose de moteur dans la société bretonne, et c'est ce qui me fait dire que, de toute façon, les Bretons sont un peuple. Donc à partir de ce moment-là, ils ont effectivement la lutte des classes, qui parfois fait qu'ils peuvent s'opposer, mais ils ont aussi des moments où, quand ils se sentent en état d'infériorité, en train de perdre, si vous voulez, leur substance, hein, c'est un peu ça, et à ce moment-là, ils peuvent avoir des actions collectives et concrètes.
Rappelons quand même que cette fameuse écotaxe qui porte sur les camions plus polluants que d'autres types de transports a été mise en place sous Sarkozy. À l'époque, elle a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. En principe, elle doit permettre de financer le rail ou le transport fluvial. Mais dans cette période de vaches maigres, le projet de toucher une avance sans un réel avancement est visiblement compromis. C'était Oksana Bobrovitch et la voix de la Russie.